Bonjour à tous, je vais saluer une grande partie, mais je ne crois pas tout le monde, alors ceux que je n'ai pas pu saluer, je vous dis bonjour et vous avez des salutations chaleureuses de l'église d'où je viens, c'est-à-dire l'église mélanite de Belfort. Voilà. C'est vrai que ces derniers temps, on est venu un peu moins régulièrement, mais ce n'est pas parce qu'on ne vient pas qu'on ne pense pas à vous. Je ne vais pas vous resservir le discours habituel de la... mon discours habituel de la fraternité des grandes églises envers les plus petites, mais bon, je crois que c'est quelque chose d'important. On y est sensible et vous aussi, et je crois que ça fait partie aussi de l'unité de la famille de Dieu. Alors ce matin, je vous propose de continuer à lire dans la parole, dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Marc 6, les 6 premiers versets. Donc je vais lire dans la seconde, pour ceux qui ont des Bibles. Alors Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Ce texte de l'évangile de Marc, qui est, je crois, bien connu, est intéressant parce qu'il nous parle de Jésus au milieu des siens. Jésus qui revient dans sa patrie, on pourrait dire dans sa famille, parmi ses voisins, certainement ceux qu'il avait comme amis quand il était plus jeune, ceux qui sont censés être ses proches. On pourrait dire ceux qui le connaissent bien, ou plutôt qui croient bien le connaître. Jésus vient dans son propre pays et s'y comporte comme ailleurs, sauf que l'accueil qu'il reçoit n'est pas le même. Il y a un double étonnement, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui encadre ce récit. D'abord, il y a l'étonnement des auditeurs. Au verset 2, il est écrit « Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Comment de tels miracles se font-ils par ses mains ?» Puis à la fin du chapitre, c'est cette fois-ci l'étonnement de Jésus. Il dit « Et il, donc Jésus, s'étonnait de leur incrédulité. » Une incompréhension mutuelle, un décalage en quelque sorte. Et pourtant, souvenez-vous, Jésus vient de Capernaum où là il a réalisé plusieurs miracles. Il y a eu cette fille, la fille de Jaïrus, chef de synagogue, qui a été ressuscitée quand même. C'est un miracle extrêmement incroyable. Il y a eu cette femme aussi juste avant, atteinte d'une perte de sang depuis plus de 12 ans, et qui, juste en touchant le manteau de Jésus, a eu cette guérison instantanée, et puis cette conversation ensuite avec Jésus. Un tout petit peu avant, il y avait cet homme possédé d'un esprit impur, que Jésus a chassé, et cet esprit qui s'est mis dans un troupeau de 2000 pourceaux, qui est devenu comme fou, et qui s'est jeté dans la mer, enfin, des choses quand même un petit peu incroyables, dont on parle aux alentours. Alors c'est pas l'heure de Internet et de Facebook, hein, au temps de Jésus évidemment ça va pas aussi vite, mais enfin la région n'est pas extrêmement grande et certainement ça a dû faire parler. Alors on pourrait s'attendre que Jésus revienne dans son pays, dans sa patrie, alors, à défaut d'être reconnu comme fils de Dieu bien sûr, mais au moins en tant que héros. Eh bien ce n'est pas le cas. Au lieu de ça, l'incrédulité. Les gens s'interrogent, se posent des questions à son sujet. On pourrait dire quelque part qu'ils trouvent ça louche, tous ces miracles, toutes ces questions. Comment fait-il ? D'où lui vient cette sagesse ? L'incrédulité, pourquoi ici plutôt que dans les autres lieux où Jésus est passé juste avant ? Ben, on a la réponse dans le texte que j'ai lu. Verset 3, « N'est-ce pas le charpentier, fils de Marie, le frère de Jacques, etc. » N'est-ce pas le charpentier ? L'étonnement des gens de Nazareth, finalement, provient de ce qu'ils croient connaître Jésus et du fait que le comportement de Jésus ne correspond plus, finalement, au Jésus qu'ils ont connu avant. Parce qu'ils lui ont collé une étiquette. Ils lui ont collé une étiquette qui provient de leur souvenir d'une certaine époque, pas si lointaine d'ailleurs, et je crois qu'ils refusent d'envisager la nouveauté. Jésus, le charpentier. Comment cette sagesse, comment ces miracles peuvent-ils sortir du charpentier, celui qu'on a vu parmi nous, qui faisait ses tables, ses meubles? Le récit analogue dans Matthieu, on retrouve aussi ce texte dans Matthieu et Luc, hein, le récit analogue dans Matthieu, au chapitre 13, verset 55, est un tout petit peu différent. Il dit « N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère, Jacques, Joseph, etc., ses frères ?» Donc, Jésus a donc été considéré non seulement comme charpentier, mais en plus comme le fils du charpentier, fils de Joseph. C'est un artisan de la ville de Nazareth. Un homme modeste, de qui, par son origine modeste, il ne peut pas prétendre à grand-chose. Alors, c'est vrai que certains commentateurs de la Bible ont pensé un temps que, finalement, Joseph n'était peut-être pas si modeste que ça. Certains ont pensé qu'il pouvait peut-être être plus qu'un charpentier, plutôt un entrepreneur, on va dire, en bâtiment. Mais il y a d'autres commentateurs qui se sont élevés contre cette hypothèse, et finalement, une fois de plus, on a la réponse dans la Bible elle-même, puisque lorsque Joseph et Marie viennent présenter Jésus au temple, il est dit dans Luc 2, verset 22, « Joseph, selon la loi de Moïse, offre deux tourterelles ou deux jeunes pigeons pour leur purification rituelle. » Et deux jeunes pigeons, pardon. Et on trouve cette pratique mentionnée dans Lévitique 12, en fait, où il est écrit que cette offrande de tourterelles et de pigeons est en fait réservée pour ceux, pour les personnes modestes, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se procurer un agneau, on pourrait dire le sacrifice des modestes en quelque sorte. Voilà, donc Jésus, charpentier, fils de charpentier, un homme si modeste, issu d'une famille si modeste, peut-il faire tout cela? Peut-il savoir tout cela? L'incrédulité, parce que Jésus a l'étiquette du charpentier. Alors nous sommes tous d'accord avec cela, bien sûr, mais je dirais méfions-nous aussi, et surtout de nous-mêmes, de ne pas reproduire ces attitudes des Nazaréens qui jugent finalement Jésus sur son passé, sur le fait qu'il soit fils de charpentier, qu'il enferme dans un tiroir bien étanche, sur lequel il y a marqué « famille modeste », et puis qu'il lui colle une étiquette finalement sur le front, une étiquette « charpentier ». Voilà. Sous-entendu, tout dans les mains et pas grand-chose dans la tête. C'était ça un petit peu qui était sous-entendu. Je crois malheureusement que nous n'avons pas vraiment changé depuis ce temps. Nous avons, nous aussi, une fâcheuse tendance à cataloguer, à ranger les personnes dans des cases, à coller des étiquettes sur les autres. En tout cas, pour ma part, je crois que je le fais aussi involontairement, mais je le fais. En fonction de ce que nous percevons à l'instant T, et puis souvent cette image dure dans notre esprit, et si une personne change, on a du mal à le reconnaître, à le réaliser, parce que nos schémas de pensée ont la vie dure. Jésus, le simple charpentier, de surcroît fils de charpentier, fils de. Encore une fois, on pourrait juger facilement ces Nazaréens en disant il pouvait faire autrement. Mais je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a comme quelques années, quand j'avais une vingtaine d'années. En fait, une double anecdote. Il se trouve que quand j'étais plus jeune, j'étais au comité de la commission de jeunesse des églises émémnites. Je ne sais pas s'il y a des jeunes qui vont aux commissions de jeunesse. Bref, donc j'étais nouvellement élu, et puis on m'avait demandé de présenter un petit peu, faire un petit sketch, je ne sais plus exactement, faire quelque chose, je crois que c'est même autour de Méno-Simon, dans une église Méno d'Alsace où il y avait 250-300 personnes rassemblées. Et comme le comité était nouveau, à la fin de notre petite prestation, le nouveau président présente le nouveau comité. Et quand il arrive à moi, il me donne dit nom, prénom et d'où je viens. Et quelqu'un se lève dans la salle et dit « Jean-Philippe Muller de Toul, c'est bien beau, mais peux-tu nous dire de qui tu es le fils ?» Et là, je vois 300 personnes qui acquiescent fortement, qui opinent du chef pour dire « Oui, ça nous intéresse vraiment. » Alors j'étais très mal à l'aise. Je me suis dit « C'est qui tout double ? S'ils connaissent mes parents bien ou en mal, ça dépend. » Donc je m'exécute, je dis le nom des parents, de mes parents, là j'entends 300 soulagements, des ouf, des ah, des bref, des sourires, mais ça va, l'honneur est sauf. Mais enfin, cette situation m'a fait froid dans le dos, parce que je me dis finalement, j'ai eu l'impression d'exister, d'avoir de la valeur, d'être quelqu'un, parce que on pouvait m'identifier par rapport à mes parents. Et je me suis dit que vraiment, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué. Et je me suis promis que je ne ferais jamais ce genre d'erreur de mettre une forte valeur sur l'intérêt qu'on a pour les parents. Et puis, à 3-4 ans, une petite jeune, pareil, fait aussi, ou donne une interview dans une conférence Meno, voilà. Et puis son nom de famille qui sonne bien mennonite comme ça me dit quelque chose. Alors je viens vers elle plus tard, et puis on discute, et puis je dis, mais alors tes parents, c'est qui déjà? Ah oui, d'accord, hein, je comprends mieux, etc. Et tout d'un coup, cette première anecdote m'est revenue violemment au cerveau en me disant finalement. Finalement, voilà, je crois qu'entre-temps, j'avais largement pardonné à cette personne qui m'avait demandé, puisque bon, on se voit régulièrement, et je me suis dit, oui, c'est pas facile. C'est pas facile de... Comment dire? C'est pas facile de garder la valeur des gens sans regarder la valeur des parents, sans regarder d'où ils viennent, leur passé, etc. Je crois que c'est une leçon qui m'a appris beaucoup de choses. Voilà, ces deux anecdotes pour nous rappeler qu'on a du mal, malgré notre bonne volonté, à se sortir de ce réflexe d'identifier, quelque part de donner un statut à une personne à partir de sa famille, de ses parents. Même si au départ, il n'y a rien de mal, parce que cette personne, elle était comme moi après, il n'y avait aucune... je pense, rien de mal intentionné. Mais ça peut quand même avoir des effets négatifs aussi sur la personne et surtout sur nos préjugés. Si Jésus avait fait comme nous parfois, en collant des étiquettes sur les gens qu'il côtoie, ben je crois qu'il ne serait jamais entré chez Zachée, par exemple. Zachée, ce voleur, ce, on va dire, professionnel de l'arnaque légalisée. Il n'aurait peut-être jamais eu de conversation avec la femme prostituée. Il n'aurait certainement pas accepté non plus que Judas, ce traître, fasse partie de son équipe de 12. Pourtant, Jésus ne connaissait pas seulement les préjugés, il savait aussi la vérité. Il ne s'est pas arrêté aux apparences, aussi justes soient-elles. Il a considéré les personnes pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ont au fond d'elles, mais aussi et surtout pour les besoins qu'elles avaient d'être à son contact, de comprendre que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est venu pour tous. Alors cela aussi doit nous interpeller dans la gestion de nos relations. On peut juste se poser quelques questions, en tout cas je me les pose. Vers qui allons-nous? Avec qui avons-nous des relations? Quels sont nos préjugés, nos étiquettes qui nous empêchent par exemple d'aller vers certaines personnes qui ne nous attirent pas du tout, qui nous refroidissent, qui ne nous ressemblent pas? Revenons-en à Jésus un instant, Jésus parmi les siens qui n'est pas compris. En fait, ce que les proches ne comprennent pas de Jésus, c'est finalement ce changement. Le changement de Jésus, le changement de posture. Il est le même, bien sûr, mais son être tout entier est maintenant tourné vers une autre mission, une mission qui est bien différente de celle de faire des tables, des meubles, des chaises, je ne sais quelle construction en bois. Il est missionné par son père, pas son père adoptif, mais son père éternel, pour délivrer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que tous maintenant ont accès à Dieu à travers lui. Mais ce changement de posture, les Nazaréens ne le comprennent pas. Et pourtant, dans la parole de Dieu, on a beaucoup d'exemples de changement de posture. Il en est souvent question dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. On peut prendre par exemple quelques cas dans l'Ancien Testament. David, le simple berger sans prétention, qui va devenir roi d'Israël. Ça, c'est un changement radical aussi de posture. Moïse, l'exilé, le banni, le meurtrier, qui va devenir celui qui délivre les Hébreux de l'esclavage égyptien. Jacob, le tricheur, l'usurpateur, qui va prendre sa place en succédant à Isaac, le patriarche. Gédéon, celui qui se cache, qui a peur des Madianites, et qui va être chef de guerre contre cette grande armée de Madian. Bref, il y a encore plein d'exemples dans le Nouveau Testament. Paul, bien sûr, le plus spectaculaire au niveau du changement. Cette transformation, cette façon que Dieu a de prendre des personnes, je dirais, totalement ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires, Paul l'explique dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Je vous lis ces trois versets, versets 26 au 29. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire au néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Moi, je crois qu'il est là le but aussi. Le but, c'est que personne ne puisse se glorifier en disant « Moi, je suis quelqu'un. Moi, je peux réussir. Moi, C'est Dieu qui appelle et qui qualifie malgré notre faiblesse. Ce changement, cette nouveauté dans la manière d'être de Jésus, de parler, d'enseigner, de faire des miracles, les proches de Jésus le refusent. Ils ne sont pas prêts à changer de regard sur lui. Ils sont dans l'incapacité finalement de reconnaître en Jésus quelque chose qu'ils ne s'attendent pas à voir de lui. Du coup, rien ne se passe. Au pire encore, il y a de l'hostilité qui apparaît. L'inattendu, les chocs, ils se sentent provoqués, scandalisés, choqués. Si on prend un peu la traduction littérale des versets qu'on a lus tout à l'heure. Il écrit « Jésus fut pour eux une occasion de chute ». Et même Luc, dans le récit de cet épisode, parle de conséquences plus graves encore, puisque les gens de Nazareth cherchent à tuer Jésus. Imaginez un peu la tristesse de Jésus. Dans le récit de Marc, il est dit que Jésus ne put faire presque aucun miracle et qu'il s'étonnait de leur incrédulité. Dans ce récit de Matthieu, il leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison ». Et dans le récit de Luc, alors qu'ils veulent le précipiter du haut de la montagne, il nous est dit que Jésus passa au milieu d'eux et s'en alla. Imaginez un peu la souffrance de Jésus. Eux, c'est quand même ceux qui le connaissent, ses connaissances, ses anciens amis, ses anciens voisins peut-être. Vous connaissiez le dicton célèbre que ce passage a donné, d'une des prophètes en son pays. L'expérience de Jésus, je crois, est aussi la nôtre, il me semble, en tout cas la mienne. Être un témoin de Christ dans son univers quotidien, parmi sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues de travail, je crois que c'est quelque chose de difficile. En tout cas, c'est un vrai défi. On aimerait tous que, simplement par ce que nous sommes, par nos attitudes, par nos paroles, par nos actes autour de nous, ça suffise à, pour que les gens reconnaissent la bonne odeur de Christ, cette appartenance de Jésus, et que ça leur donne envie. Mais la réalité est parfois tout autre. Alors, c'est vrai, peut-être parfois à cause des étiquettes du passé qu'on peut nous coller, peut-être à juste titre. C'est le cas pour Jésus, mais soyons honnêtes, pour nous, c'est plus souvent parce que nos attitudes, mes attitudes, ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être, parce que mes paroles ne sont pas toujours empreintes d'amour envers les autres, envers mes collègues, envers mes proches, parce que mes actes ne sont pas toujours bienfaisants non plus. Même chrétiens, on reste des pécheurs graciés, pardonnés, certes, mais des pécheurs tout de même. Et on a besoin de confesser ses manquements au Seigneur, on a besoin de progresser aussi en demandant l'aide du Seigneur pour qu'à notre contact, nos proches aient envie d'en savoir plus. Et le dernier point que je voulais aborder avec vous ce matin, il n'est pas mentionné directement dans les passages de Marc et Matthieu, mais dans celui de Luc, qui fait un récit plus long et plus détaillé. Je lis Luc 4, versets 22 à 28. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Jésus leur dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. On voit que Jésus, dans son enseignement, dit des choses qui dérangent. Des vérités que les siens n'ont pas envie d'entendre. Je dirais tant que ça ne les concerne pas vraiment, ils sont seulement étonnés, surpris d'entendre Jésus parler avec autant de sagesse. Je te demande un petit peu d'où ça vient. Mais dès que Jésus leur explique que comme lui, en leur temps, Élie et Élisée n'ont pas fait non plus beaucoup de miracles dans leur patrie, cela les met hors d'eux. Verset 28, ils sont remplis de colère, nous a-t-il dit. À tel point, on l'a dit tout à l'heure, qu'ils tentent d'assassiner Jésus. Un sentiment de curiosité au départ, d'étonnement, de suspicion qui se transforme soudain en colère. en haine, parce que ces paroles de vérité prononcées par Jésus les dérangent, les révoltent, les choquent. Et je me suis dit, en relisant ce passage, je suis interpellé par finalement cette colère que déclenche Jésus auprès des siens, et colère qu'il ne cherche pas à éviter. Il n'essaye pas de rattraper le coup, de changer un peu son discours pour calmer les esprits, d'arrondir les angles. Alors je me dis, et nous, qu'en est-il de nos relations avec nos proches, avec ceux qui nous voient vivre, lorsque nous prenons peut-être des positions particulières qui peuvent interpeller les autres, qui peuvent peut-être choquer, énerver, ou même parfois susciter de la colère? Est-ce qu'on n'a pas un peu tendance à arrondir les angles, à nuancer nos propos, lorsqu'on sent qu'on va choquer les autres par nos prises de position qui peuvent sembler radicales? Je repense au débat qui a agité notre société pendant ces derniers mois sur le mariage pour tous. Est-ce qu'on est prêt à s'entendre dire qu'on est homophobe, qu'on est intolérant, qu'on est sectaire, qu'on est passéiste, et je ne sais entre quel adjectif j'ai pu entendre, parce qu'on pense que le mariage tel que Dieu le conçoit est réservé à un homme et une femme? Jésus a eu ce courage, en tout cas, d'aller jusqu'au bout dans ses prises de position, sans compromis. Et c'est vraiment une leçon pour nous, en tout cas pour moi, qui ai du mal à être parfois en désaccord avec les autres, à être incompris, à être moqué, à être montré du doigt, comme ça peut l'être pour nous quand on a des positions particulières. Et pourtant, il y a un verset qui nous invite à y aller, je dirais franchement, un verset qu'on n'aime pas trop lire parce qu'il peut nous déranger. Apocalypse 3, verset 16, vous connaissez ce petit verset. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » En tout cas, Jésus a été en désaccord avec la société de l'époque. Non seulement cela, mais il a accepté aussi de payer le prix suprême, le prix fort, de vivre la plus grande injustice de tous les temps, en mourant, en martyr sur une croix, lui le seul innocent à notre place, à ma place. Pour conclure, rappelons-nous simplement que lorsque nous passons par des temps difficiles, quand nous nous sentons peut-être incompris de nos proches, de nos collègues, de notre famille aussi, cela peut arriver. Eh bien peut-être certainement, Jésus, on l'a lu, a connu ces sentiments. Il les a vécus lui aussi pleinement, il peut nous comprendre, il peut les prendre pour lui. Les incompréhensions, les moqueries, les colères de ceux qui ne le comprennent pas, tout cela doit nous aider à nous dire que nous ne sommes pas seuls. Jésus a vécu tout cela avant nous, et de la même manière que nous, il a eu aussi un métier, il était charpentier, on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a connu ces journées peut-être fatigantes, stressantes. Oui, avant son ministère, il a connu ces journées de travail que nous pouvons connaître, qui sont parfois difficiles à vivre, et mieux que personne, il peut nous comprendre justement. Alors je vous laisse juste ce verset pour terminer, c'est dans 1 Pierre chapitre 6, verset 7, qui résume un petit peu tout ça. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen.